aussi le problème d'autres personnes qui, au nom de la loi d'un Dieu, refusent que les médecins hommes soignent des femmes, alors que dans leur pays d'origine, cette question-là ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'en Algérie, vous avez des hommes qui sont médecins qui soignent des femmes sans problème. Bon, on reviendra là-dessus. Alors, on va passer à la deuxième partie de la matinée, et j'appelle M. Daniel Grocola, donc, qui est inspecteur général honoraire de l'éducation nationale et qui est président du CCNM, et qui va donc intervenir par rapport à l'éducation nationale et voir de quelle manière l'éducation en général et tout ce qui environne, notamment les emplois salariés. Alors, M. Grocola, vous avez la parole pendant 25 minutes à plus. Voilà.
Je plains les intervenants successeurs car je mesure déjà les risques pour moi d'aborder des thèmes qui l'ont déjà été. Donc, les derniers intervenants, ça sera chose difficile. Vous m'avez présenté comme inspecteur général honoraire, mais on accède à l'honorariat en réalité quand on parvient à la retraite. On n'a pas les honneurs avant quand on est actif. Ceci étant dit, je ferai inévitablement référence à des expériences personnelles, car j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance, mais d'agir en tant que haut fonctionnaire dans le domaine de l'éducation et dans le domaine des sectes, et ensuite de militer dans le mouvement associatif. Je vais commencer par une réflexion toute personnelle. Tout dans les systèmes totalitaires, on rêvait de conditionner, de formater les enfants et les jeunes parce qu'ils apparaissent malléables et qu'ils croient pouvoir les conditionner, afin d'en faire des sujets de leur idéologie. Les organisations de type sectaire, parce qu'elles sont à leur façon des organisations totalitaires, partagent cette aspiration et tentent sous des formes diverses à mettre en œuvre ce conditionnement. Avant d'examiner les tentatives de prosélytisme sectaire en direction des jeunes, je voudrais préalablement donner une vision optimiste de l'homme, de l'espèce humaine. L'homme est un animal rebelle au conditionnement, comme le prouvent les multiples tentatives au cours des siècles et les tentatives les plus élaborées dans un passé récent. J'ai particulièrement étudié il y a quelques années, alors que j'exerçais une fonction diplomatique en Allemagne, dans le domaine de la jeunesse, ce qu'étaient devenus les jeunes enrôlés sous le nazisme dans la Hitlerjugend. J'ai en particulier bien connu un haut responsable politique allemand dans les années 1980 qui m'a confié, lorsque nous sommes devenus amis, il le confiait très rarement, qu'il était le fils d'un dignitaire nazi et qu'à ce titre, son éducation fut conditionnée par le nazisme. Il l'avait bien analysé et il en parlait avec culpabilité. Était-ce par rejet, il était rétif à toute contrainte et militait pour les droits de l'homme. Ce n'est pas un cas isolé, en dehors de quelques nostalgies du nazisme, mais nous avons autant en France de nostalgie du nazisme, autant en France qu'en Allemagne, et la plupart de ceux qui ont subi l'endoctrinement nazi l'ont rejeté, non par opportunisme, mais par conviction, comme Richard von Weizsäcker, que j'ai connu comme président de la République d'Allemagne, mais qui est le fils d'un accusé du tribunal de Nuremberg. Je parlerai du fils du maréchal Rommel, qui a été, jusqu'à un passé récent, maire de Stuttgart et un maire exemplaire sur le plan de la démocratie. Donc tout ça pour dire que les choses ne sont pas figées. Mais nous avons tous en mémoire ce contre-exemple, cette image tragique de quelques jeunes nazis prêts à mourir, les armes à la main, félicité par le Führer quelques jours avant l'effondrement du Reich. Mais quelques mois plus tard, les survivants, ces survivants, ont été retrouvés et ils rejetaient ce qu'ils avaient adoré auparavant. C'est donc un message d'espoir et de confiance en la nature humaine. Mais combien de souffrances, de déchirements et de traumatismes génèrent ces folles tentatives, qu'elles émanent d'un État ou d'un petit groupe totalitaire? Un raisonnement logique devrait me conduire à m'adresser aux adeptes des sectes et à leurs défenseurs, qui sont dans la salle, pour leur dire « vos entreprises sont inutiles ». Mais ce serait faire appel à la raison, et la raison n'est pas leur guide. Si nous dénombrons en 2006 moins d'enfants et de jeunes victimes d'organisations sectaires, ce n'est pas parce qu'elles ont compris que leur entreprise était vouée à l'échec, mais parce que l'action des associations conjuguée aux dispositifs des pouvoirs publics se révèle efficace. Nous considérons que le phénomène sectaire en France a connu à l'âge trois phases. La première phase, c'est celle des années 70, début 80, où les sectes ont relativement le champ libre, se fondent deux grandes associations nationales, l'UNATFI d'abord, puis le CCMM. Les associations font pression auprès des pouvoirs publics. Le premier acte, c'est le Premier ministre Pierre Mauroy qui demande à un jeune parlementaire, Alain Vivien, de rédiger un rapport. Le rapport n'a pas de suite immédiate. La seconde phase se situe au milieu des années 90, avec des temps forts, le rapport parlementaire d'abord, bien que une circulaire demande de ne plus tenir compte, ce sont des directives au ministère, nous associations ne sommes pas tenus d'obéir à une circulaire du Premier ministre, et pour nous le rapport parlementaire existe toujours et nous en tenons compte. Donc il y a le rapport parlementaire. Il y a le massacre de l'OTS qui a marqué l'opinion publique et l'a sensibilisée. Et en ce qui me concerne, suite au rapport parlementaire, parce qu'on a souvent tendance à croire, on prête à un ministre la phrase que quand on veut enterrer un problème, on crée une commission, ça n'est pas toujours vrai. Ça ne l'est pas toujours, hélas, mais ça n'est pas toujours exact. Et donc, moi j'ai pu vivre concrètement les suites du rapport parlementaire au sein de l'éducation nationale, lequel ministère était gentiment épinglé dans le ministère par le rapport où il y avait deux lignes. Deux lignes où le rapport parlementaire disait « Nous n'avons pas trouvé d'interlocuteur dans le ministère, il semblerait qu'il n'y ait pas de politique. » Ça n'était pas... Mais ça a eu une réaction et j'ai reçu une mission de faire le point. Est-ce que l'éducation nationale est concernée par le problème sectaire? Et pendant 6 mois, j'ai enquêté à travers toute la France. J'ai présenté le rapport au cabinet du ministre en août 1996, sans note, car une psychose avait commencé à se répandre suite au rapport parlementaire et où certaines personnes qui avaient témoigné avaient fait l'objet de pressions, donc des dispositifs particuliers étaient mis en place de façon à ce que ceux qui apportaient une contribution ne connaissent pas de difficultés ensuite. Ce rapport a fait prendre conscience au ministre qu'il fallait faire quelque chose et une politique a été engagée. Donc le rapport parlementaire dans un domaine bien précis, celui de l'éducation, a fait avancer les choses. Cependant, et ce fut la même chose avec tous les ministres successifs, lorsque je disais le premier problème, c'est celui de pouvoir contrôler les écoles privées hors contrat. Et pour pouvoir le faire, il faut modifier la loi Jules Ferry. Et la réponse de tous les ministres était « Jules Ferry, c'est un monument, on ne touche pas à Jules Ferry ». Il est vrai qu'un des ministres venait de prendre involontairement l'initiative d'une manifestation qui avait rassemblé 1 million de personnes parce qu'il avait voulu modifier la loi Fallou, ce qui rendait les ministres quelque peu frileux. Et contrairement à ce qui a été écrit par certains spécialistes du secte, la loi de 1998 n'est pas née de volonté ministérielle. Elle est d'initiative parlementaire. Le ministère va demander de rencontrer les parlementaires pour les conseiller, mais c'est essentiellement d'initiative parlementaire. Et la loi de 1998 a été votée à l'unanimité des deux assemblées, en commençant procédure inhabituelle, par le Sénat et ensuite par l'Assemblée nationale. Pourquoi est-elle constituée une étape fondamentale? Parce que, et la loi Jules Ferry, et la loi Goblet, ministre qui a succédé à Jules Ferry en 1886, s'appuyait sur quelque chose qui est habituellement oublié et qui est fondamental, c'est le principe de liberté d'enseignement. Il faut bien comprendre que, je recherche dans mes notes, sous la révolution, les plus grands révolutionnaires, je vais vous citer Mirabeau, dans son discours sur l'éducation en 1791, disait « Tout homme a le droit d'enseigner ce qu'il sait et même ce qu'il ne sait pas. » Et Condorcet, dans le projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique, lu en avril 1792, se déclarait hostile à tout monopole d'enseignement. Donc, le principe de liberté d'enseignement, on pourrait ensuite remonter, et les citations seraient nombreuses, et on peut dire que le principe de liberté d'enseignement a valeur constitutionnelle, bien qu'il ne figure pas dans la Constitution, mais a valeur constitutionnelle. Donc, le dispositif législatif ne pouvait pas aller à l'encontre de cette liberté d'enseignement. Les parlementaires, dans la loi, ont voté un cadre général et ils ont laissé le soin au ministère, par le décret d'application, de trouver les mesures. Trouver les mesures, je fus le rédacteur du décret, n'était pas chose facile, et dans la navette avec le Conseil d'État, bien souvent, c'était vous porter atteinte au principe de liberté d'enseignement. La réflexion toute qui venait à l'esprit était, lors du contrôle d'une école, il suffit de s'assurer que les programmes pour les enfants de 8 ans sont bien appliqués dans telle école privée. Or, vouloir faire référence au programme scolaire, ce serait contraindre des écoles privées, je ne parle pas des écoles sous contrat, mais ce serait contraindre des écoles privées à adopter la progression du système éducatif. Donc, ça serait anticonstitutionnel. Et donc, tout notre effort, et j'ai quelques fiertés, je crois que la tribune va citer dans son rapport l'article 4 du décret qui est plein de subtilités. Je pourrais l'avoir apporté de la main, mais je le citerai tout à l'heure. Il est tout à fait fondamental. Je le retrouverai, j'y reviendrai. La situation antérieure était la suivante. Dans la mesure où il était interdit de s'immiscer dans la pédagogie, les corps d'inspection, et c'était la loi Goblet qui le disait, ne pouvaient intervenir qu'au niveau du contrôle de l'hygiène et de la morale. Du contrôle de la morale, de l'hygiène et de la sécurité. Or, évolution dans le temps, il existe maintenant des administrations compétentes pour l'inspection de l'hygiène. À notre époque, s'instaurer inspecteur de morale, personne s'y risquera. Autant à la fin du 19e siècle, la morale faisait l'objet d'un consensus, soit croyant ou incroyant, les bases étaient très proches De nos jours, il n'y a plus d'inspecteur de morale. Et la sécurité, c'est de la compétence des maires, qui président les commissions de sécurité. Donc l'école d'inspection n'avait plus rien à faire dans ces écoles. Et lorsqu'un inspecteur allait dans des écoles connues comme écoles de secte, il s'était proprement éconduit, et ce qui était tout à fait légal. Et j'ai le souvenir d'un inspecteur de l'académie de la Drôme qui s'était fait réprimander par le procureur pour avoir outrepassé ses fonctions. Donc le vote de cette loi a été très important. Et, hein, le drame du petit Raphaël, auquel il a été fait référence à plusieurs reprises, a bien illustré le contexte. Un enfant décède dans une secte. C'était une secte, le hasard fait que la secte n'était pas située n'importe où, elle était située dans les Pyrénées Atlantiques, dont le président du Conseil Général, comme par hasard, était en même temps le ministre de l'Éducation nationale. C'est dire que lundi matin, l'enfant est décédé un samedi, lundi matin, le ministre me demandait d'intervenir rapidement et de voir ce qu'avait fait l'Éducation nationale. Alors nous n'avions pas le droit de faire quelque chose. Si bien que c'est la justice qui a décidé de faire un contrôle. Et la gendarmerie a opéré, ça se fait très rarement, un bouclage du site. Et il a été découvert que quand l'inspecteur qui outrepassait un petit peu ses fonctions allait à Sus pour contrôler les enfants, on ne lui présentait que les enfants présentables. Et il est apparu dans le rapport de gendarmerie que lors de toutes les inspections, les enfants, les autres enfants étaient dissimulés dans la cave. Ce qui montre toute la difficulté des inspections, quel que soit le dispositif législatif, un inspecteur de l'éducation nationale ne peut pas arriver avec un escadron de gendarmerie pour procéder à une fouille dans les bâtiments de la secte. Donc la loi a renforcé le dispositif, mais il n'a pas tout réglé. Deuxième aspect, et je réponds à une des questions que j'ai entendues, voter une loi, c'est bien, c'est nécessaire. Mais appliquer la loi est quelque chose de difficile. Tout d'abord, tout ministère se pose le problème des moyens. La loi votée, j'ai animé une réunion d'inspecteurs d'académie pour leur expliquer et leur dire ce que supposait le nouveau dispositif. Les premières questions ont été, allons-nous avoir davantage d'inspecteurs pour effectuer les contrôles à domicile? Donc ça s'est d'abord posé en termes de moyens. Mais les moyens sont certes importants, mais par-delà les moyens, s'est posé le problème de la philosophie. Et encore de nos jours, j'intervenais dans une formation du ministère de l'Éducation nationale, et je mesurais que 8 ans après, certains aspects n'étaient encore pas parfaitement compris. Je relis, c'est le fameux article 4 auquel je faisais référence, qui à mes yeux est fondamental. L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté dans le respect des droits de la personne humaine, défini dans le préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant. Et le passage clé, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation. C'est-à-dire que les inspecteurs, respect du principe de liberté d'enseignement, ne contrôle pas l'application des programmes. C'est la tendance naturelle de tout corps d'inspection qui connaissent leurs références et ainsi de suite, de vouloir calquer sur le système éducatif. Ils n'en ont pas le droit, ils commettraient une faute et de temps en temps, il y a quelques dérapages. Par contre, s'assurer que l'école développe l'esprit critique, la pratique de l'argumentation, que les références éducatives sont les valeurs de la Constitution, les droits de l'enfant, croyez-moi, c'est l'arme absolue, car je ne connais pas d'organisation sectaire qui, quand ils avaient des écoles, développait ces pratiques et faisait référence à ces valeurs. À aucun mot dans les textes, le mot secte n'apparaît, mais il est évident que par les formulations, c'est incompatible, c'est inacceptable pour une secte. Les conséquences, et les parlementaires et ceux qui avaient travaillé sur la loi ont été les premiers surpris, c'est que dès que le décret d'application a été publié, sont arrivées au ministère plusieurs lettres d'écoles privées qui déclaraient fermées. C'est-à-dire que le simple effet de publier un texte a eu pour effet la fermeture d'écoles que nous avions bien identifiées, que nous connaissions, mais où nous n'avions pas le droit d'aller. Je n'ai pas le temps, mais si vous me posez une question, il y a eu un épisode, quand on est retraité, on a beaucoup moins de temps que quand on est actif. Quand j'ai pour projet d'écrire un ouvrage, et je relaterai dans le détail les épisodes de l'école de la scientologie, l'école de l'éveil. Les péripéties furent nombreuses. L'organisation a montré son vrai visage dans cette affaire, et le moment venu, j'en compterai les péripéties, mais Scientology, comme toutes les autres organisations, ont dû fermer leur école. Si ce n'est que, il ne faut jamais se satisfaire des situations. Nous le savions quand l'école a fermé, nous avons mis en place un dispositif d'éveil. Et les faits nous ont prouvé que nous avions raison, car un an après, l'école réapparaissait à Vincennes. Et il a fallu engager une nouvelle procédure. Et hier, j'étais au ministère de l'Éducation nationale. Je m'assurais auprès de mes collègues que le dispositif demeurait bien en place, car je suis certain qu'un jour ou l'autre, la velléité de rebâtir quelque chose qui est interdit par la loi réapparaîtra. Donc, la règle générale, c'est une vigilance de tout instant.
Très bien. Et
je... Ah, oh, c'est déjà tout.
Oui.
Oh là là. Je crois que la
moitié. Je suis d'accord, on l'entend. 3-4
minutes. 3-4 minutes. Bien, alors, je voulais dire que la deuxième phase, qui fut la phase de construction, la phase opérationnelle, se situe des années 95 à début en 2000. Donc cette loi, plus la loi Picard, les services, les rôles se sont inversés. La puissance publique a pris le problème en main, c'est-à-dire que la première étape, les associations étaient le cheval de Troie qui tirait la sonnette. La seconde phase, c'est l'État qui s'est saisi du dossier, et c'est une excellente chose. Et depuis le début des années 2000, nous pouvons nous interroger. Se satisfait-on de la situation actuelle? Des problèmes subsistent. Il existe encore des problèmes très importants. Alors merci de m'accorder, je fais sauter au moins 4 pages pour arriver au problème actuel. On peut s'auto-satisfaire, on peut dire bon, c'est parfait dans le domaine de l'enfance. Et pourtant, ne serait-ce que la loi, nous savions le soir du vote, je l'ai dit à Jean-Pierre Brard, à l'Assemblée nationale, nous fêtions le vote de la loi et je lui disais, on essayera de la contourner. Effectivement, à l'heure actuelle, une tentative de contournement s'opère au niveau de l'instruction par correspondance. Or, le CCMM travaille en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, donc je ne vais pas développer dans le détail, mais il existe un dispositif très précis, et en particulier une loi de 1971, qui n'est pas appliquée sur le contrôle de l'enseignement à distance. Alors je m'interroge, quand il existe une loi et que les pouvoirs publics ne l'appliquent pas, on peut s'interroger. Alors je me retourne vers les parlementaires pour leur dire, je relisais hier soir la loi dans le TGV, elle nécessiterait des actualisations, mais elle donne déjà des moyens d'intervention. Donc, et les pouvoirs publics et les parlementaires ont du travail dans ce domaine. Je fais court parce que je comptais développer plus longuement. Un autre domaine, c'est le soutien scolaire. Une récente étude permet de mesurer l'ampleur du phénomène. 25% des élèves prennent des cours de soutien scolaire. Un lycéen sur trois, un collégien sur cinq prennent ou ont pris des cours hors du système éducatif. Les parents sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de l'avenir de leurs enfants et de la crainte de l'échec. Les parents qui souvent travaillent tous les deux manquent de temps pour suivre quotidiennement la scolarité de leurs enfants et culpabilisent. Donc fleurissent quantité d'organismes, certains sont des organismes corrects, qui font correctement donc leur travail, mais au détour, nous apercevons toujours des appellations attractives, des instituts alléchants en quelque sorte, mais nous savons que derrière se cachent des organisations sectaires. Or, le vide législatif, là, est total. Aucun ministère n'est en capacité d'intervention. Je pense que dans ce domaine, il y a véritablement urgence. Il s'agit de moraliser. Certes, il s'agit d'entreprises commerciales, ce qui n'a rien de péjoratif. On peut faire un commerce de qualité. Et puis, subsistent des secteurs qui échappent à tout contrôle. Nous le savons, les organisations sectaires tentent de contourner la loi. J'ai le souvenir, par exemple, qui est révélateur, d'un inspecteur de jeunesse et sport qui se présente dans un groupe issu d'une secte ici représentée, je crois, et il dit « Vous êtes un camp de vacances, je viens vous inspecter ». Le responsable répond « Ah, vous faites erreur, nous ne sommes pas un camp de vacances, nous sommes une classe transplantée, donc nous ne relevons pas de jeunesse et sport, nous relevons de l'éducation nationale. » Et heureusement, l'inspecteur de retour à sa direction départementale passe un coup de fil à l'inspection académique qui dit gilante à un IEL, un inspecteur qui va et fait semblant de tout ignorer. Il a eu droit au discours, vous faites erreur. Nous sommes un camp de vacances. Nous ne relevons pas de l'éducation nationale. Bon, c'était tellement patent qu'ils ont dû plier leur tente, c'est le cas de le dire. Donc ça, ce sont les pratiques pour faire le pied de nez à toute législation. Et je crois que les formations qui ont été pratiquées au ministère de la Jeunesse et Sport, à l'Éducation nationale, les corps d'inspection sont sensibilisés, et maintenant ce type d'astuce n'a plus cours. Mais il existe tout un champ dans le domaine des loisirs. Autant le ministère de la Jeunesse et des Sports a des compétences dans le domaine sportif, et encore pas dans tout le domaine sportif, car les cours privés de yoga et ainsi de suite échappent à leur contrôle. Mais ce qui est l'animation en direction des jeunes, en dehors des centres d'hébergement, échappent au contrôle de l'administration de Jeunesse et Sport. Et il n'y a pas une autre administration chargée de les développer. Donc des sectes peuvent créer des écoles de musique. Moi, dans la ville où je réside, nous travaillons en étroite liaison avec la Mijilude. À 99%, nous approuvons les initiatives. Et quand le président est stupidement mis en cause, nous montons en ligne pour prendre sa défense. Mais j'ai entendu l'autre jour une déclaration concernant les Mormons que je ne partage pas tout à fait, parce que les Mormons ont bâti à La Rochelle, pour ne pas citer, un immeuble important. Je les rencontre souvent parce qu'ils sonnent et je les fais rentrer chez moi. Nous discutons et ils expliquent que La Rochelle, ville historiquement protestante, est pour eux la tête de pont pour la conquête de l'Europe. Et ces jeunes garçons qui sont pour deux ans venant des États-Unis généralement, bon genre, qui pendant deux ans ont fait des économies pour pouvoir diffuser la bonne parole, sont les porteurs d'une idéologie sectaire lorsqu'on l'analyse. Alors, pour plaisanter, je dirais, on leur donnerait bon Dieu sans confession, mais méfions-nous. Même les sectes qui présentent le visage le plus rassurant peuvent être dangereuses, et leur produit d'appel c'est le petit dépliant des cours d'anglais gratuits, cours de soutien gratuits d'anglais, donc qui échappe à tout contrôle, c'est le produit d'appel pour adhérer à leur organisation. Tout à l'heure, il a été évoqué les témoins de Jéhovah, je ne vous développerai pas beaucoup, mais j'ai vécu personnellement un drame révélateur. J'ai été appelé à Quimper où les parents d'élèves avaient décidé de boycotter l'école du village à Saint-Fornier, je crois, à côté de la Trinité-sur-Mer. Une école parallèle s'était créée à la salle des fêtes parce que les parents ne voulaient pas avoir une institutrice témoin de Jéhovah. Donc j'ai été appelé à la rescousse parce que ça faisait un mois que les choses duraient, donc que l'école publique était vide et que l'école parallèle fonctionnait. Et j'étais dans le bureau d'inspecteur d'académie, coup de téléphone, un élève venait de se suicider au lycée de Quimper. J'y suis allé immédiatement et c'était un jeune témoin de Jéhovah qui était, ça arrive, élève de seconde, qui était tombé amoureux d'une élève, mais non adepte. Et la seule issue qu'il ait trouvée était le suicide. Il est monté sur le toit de l'établissement et s'est écrasé dans la cour. Imaginez le traumatisme dans tout l'établissement. C'est ce qui caractérise, à mon avis, les témoins de Jéhovah et également là, ces mormons, cette pression, cette culpabilisation exercée sur tous les adeptes. Et c'est ce en quoi elles sont dangereuses. Donc, il me faut conclure, il existe donc des champs d'activité qui, pour les sectes, leur permettent encore de tenter de s'attaquer aux jeunes. Et je pense que des initiatives législatives seraient les bienvenues de concert avec les administrations, et je suis certain que les associations ont des suggestions à formuler. On peut se réjouir des progrès. La Miviludes fait preuve d'un nouveau dynamisme. Les deux grandes associations nationales sont prêtes à apporter leur concours et elles l'apportent déjà, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un rôle tout à fait fondamental. Elles apportent la dimension de prévention par les conférences, elles apportent par leur permanence des lieux d'écoute, les lieux de conseil et d'aide. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté pour une victime de s'adresser à la justice. Eh bien, justement, je pense qu'il est plus facile être ancien adepte, n'est pas chose facile à assumer, et s'adresser directement à la justice est une démarche difficile. Il est plus facile de rencontrer un militant bénévole, établir une relation qui, lui, permettra la transition vers la justice. Donc, tout cela pour conclure en disant, c'est le croisement de tous les acteurs qui défendent les droits de l'homme et les droits de l'enfant qui permettront de combler les dernières lacunes qui subsistent.
Pour 20 minutes, avant de passer à la troisième partie, c'est terminé. Dans la profonde salle à monsieur depuis un certain temps, la main, vous pouvez vous présenter ce que vous
voulez. Merci. Didier Planson, inspecteur direction régionale et départementale des sports de Rhône-Alpes. Sauf erreur de ma part, l'intervenant tout à l'heure a expliqué que les inspecteurs de la jeunesse et des sports n'avaient pas compétence pour inspecter les centres de loisirs. Ah d'accord, autant pour moi. J'ai cru comprendre l'inverse. Donc je confirme que nous avons compétence pour contrôler les centres de loisirs et les centres de vacances, que nous nous occupons de protection des mineurs sur les temps de loisirs, c'est-à-dire les mercredis, les samedis, les dimanches, les congés scolaires et les congés professionnels. C'est-à-dire congés professionnels puisque la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, on peut trouver un mineur qui soit en situation d'apprentissage ou de ou entrer dans la vie active. Il reste toujours dans la protection des mineurs. Le temps scolaire représente 165 jours par an. Les temps loisirs, 200 jours par an. Ce qui veut dire que la tâche qui incombe à l'administration peut se représenter, ne serait-ce qu'en termes de durée pour un même public, est une tâche qui n'est pas simple, elle est plus diffuse, elle est plus importante, et je suis le seul inspecteur, par exemple, sur le monde pour contrôler l'ensemble des centres de loisirs et des centres de vacances. Quand je compare avec les moyens de l'éducation nationale, c'est vrai que la tâche est grande comme vous dites.
Merci. Oui, monsieur.
Je vais juste dire un petit mot sur la loi de 98 renforçant l'obligation scolaire. Quand nous l'avons votée, nous sommes aperçus après qu'il y avait, et je ne sais pas pourquoi la m'en dira, mais je pense que la circulaire est toujours en application, une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas lié, qui oblige l'administration à prévenir les établissements hors contrat en cas de contrôle de l'obligation scolaire. Et ça limite singulièrement, évidemment, l'efficacité de la loi, même si effectivement cette loi est un progrès important. Alors nous avons collectivement d'ailleurs interrogé mes collègues et moi, le ministre de l'Éducation nationale par question écrite, et je dois vous avouer, nous n'avons pas eu de réponse satisfaisante. Donc nous, là aussi, nous continuerons à poser la question parce que je pense qu'il serait nécessaire que cette circulaire soit modifiée. Alors M. Brocola aussi, j'ai l'impression qu'on va repartir mes collègues ce soir avec une besace bien remplie par rapport aux demandes des uns des autres, mais c'est vrai que la loi de 91, il faudra que. On regarde ça de près. Et puis soutien scolaire, c'est vrai que M. Brocola l'a souligné, là aujourd'hui il y a un vide total. Pour votre information, le groupe d'études va déposer une demande de commission d'enquête parlementaire, et ce sera, j'espère que cette demande, puisque c'est aussi une demande unanime de l'ensemble du groupe, sont en train de recueillir les signatures, toutes tendances politiques confondues, nous espérons bien créer cette commission d'enquête. Ce sont des questions bien évidemment, que nous allons aborder de manière très, très précise.
Bien, en tout cas, je suis preneur de la mission d'enquête parlementaire, vous savez, sur la chaîne parlementaire, parce que c'est une manière honorable et efficace de faire de la politique, au-delà des conditions de chacun. Et j'en parle sérieusement parce qu'effectivement, on découvre, je le dis devant M. Fenel, avec la commission de Boutreau, combien les spectateurs citoyens qui regardent cette chaîne. On ne parle pas en termes d'audience, ça a explosé littéralement. C'est tout l'intérêt que portent les spectateurs au débat politique sous cette forme. Donc, le preneur de cette commission d'enquête, si je peux m'influer un peu, mais si je suis parlementaire, je le ferai. Alors, revenons quand même à des choses. Moi, je voudrais que s'il y a des questions dans la salle, qu'on revienne un peu sur le principe de la liberté de l'enseignement. Parce que. C'est quand même un problème. Si aujourd'hui je veux créer un centre d'instruction ou une école privée où je me donnerai la liberté de vanter certaines hypothèses négationnistes, par exemple. Alors oui, mais attendez, c'est bien, parce que je ne vous pose pas la question par hasard. Ça tombe sous le coup de la loi. Mais vous avez parlé de système totalitaire. Et tout à l'heure, je vous ai posé, et j'ai fait référence à ces enfants, à ces, maintenant ces hommes, qui avaient été des enfants du Khmer Rouge à une époque, que j'ai longuement interrogé, dans le cadre d'un reportage. Le problème, c'est que là, on est dans un système totalitaire. Quand on dépossède l'enfant de ses propres droits, de son propre jugement, et qu'on le dépossède de sa propre famille, qui peut être pas un verrou, mais un repère, je dirais, critique, puisqu'on parle d'esprit critique. Et donc, là, il y a une vraie question de fond. Comment on peut, à partir du respect du principe de liberté, comment on peut néanmoins contrôler ce qui se passe dans ces établissements?
Je ne vais pas révéler comment on procède dans le détail quand, sur un site, il y a des doutes de forte présomption des inspecteurs du pont, il est évident. Alors tout d'abord, il a fallu changer les pratiques. Il y avait une tradition à l'éducation nationale de courtoisie, c'est que avant de faire une inspection, on est prévenu. Et alors, les premières inspections, lorsqu'elle fut priorisée, les premiers rapports amenaient des rapports très favorables. On ne découvrait rien. Tout d'un coup, j'ai réalisé qu'ils avaient été prévenus 8 jours à l'avance. Alors, inutile de dire que ce qu'il fallait cacher était bien caché. Mais c'est très difficile de modifier des comportements quand ça existe depuis un siècle. Les choses ont été changées. Et quand des inspecteurs viennent, d'abord, on y va à plusieurs. J'ai vécu personnellement dans une école, j'avais été dissimulé, les inspecteurs sont entrés et j'ai vu un groupe d'enfants qui disparaissait dans le petit bois derrière parce que c'était un groupe d'enfants qu'il ne fallait pas voir. Des techniques qui ne sont pas celles de l'éducation nationale traditionnelle. Exemple, les écoles stellaires dont on a parlé, mais dont je ne partage pas tout à fait l'analyse de Anne Fournier, j'ai fait contrôler les écoles stellaires le même jour, à la même heure, dans toute la France, pour être sûr qu'il n'y aurait pas un dispositif d'alerte. Or, à l'éducation nationale, une opération de ce type, qui était un peu de type policière, vu que chaque inspecteur d'académie avait une enveloppe à ouvrir le matin, à 7h du matin, et qui disait qu'à 9h, tout le monde devait être dans les écoles stellaires, il ne pouvait pas y avoir de fuite. Donc ça a amené des comportements différents pour débusquer. Je crois que c'était la phase de crise, car nous affrontions des structures qui se savaient hors la loi et qui voulaient résister. À ce jour, il en reste une, d'Habitat Place. Je trouve personnellement scandaleux 10 ans après qu'elle subsiste et que l'éducation nationale utilise une expression qui n'a aucune valeur juridique. On dit ce sont des écoles de fait. C'est faux. Il y a les écoles déclarées et les autres sont interdites. C'est comme si le ministère renonçait. Nous constatons qu'il y a une école de fait. Elle est parfaitement illégale. C'est là où un enfant est décédé. C'est là où une décision de justice, les enfants qui devaient être placés ont passé de l'autre côté de la frontière pour ne pas faire l'objet de la mesure éducative. Et on continue de tolérer. Et je trouve que non seulement c'est scandaleux, mais en plus, alors que sur l'ensemble du territoire, la plupart des problèmes ont été résolus, on tolère quelques exceptions. Là, je dois dire, Monsieur le Président, que je ne comprends pas.
Une autre personne, j'ai vu une... Oui, madame.
Alors moi, je reviens aussi. Puis nous avons été contactés par des services sociaux à propos de deux enfants.
Oui, vous présentez, madame, s'il vous plaît.
Je suis Michel de Pompier, association officielle. Nous avons été contactés par des services sociaux pour deux enfants qui avaient demandé à l'inspection à l'occasion d'un contrôle, ces enfants n'étaient pas scolarisés, d'être retirés de ce système de nomadisme. Les enfants ont été retirés, nous avons été contactés par des services sociaux et nous apprenons quelques mois après que les enfants, je prononce là par le docteur Richard, il s'agit de la secte de la famille bien connue, sont repartis, comme vous dites tout de suite, en Angleterre, soi-disant près du papa. Je pense que ces enfants-là auront certainement le sentiment d'avoir été abandonnés. Ils ont été retirés à leur demande. Ils se plaignaient le soir de ne manger qu'une boîte de sardines à 3 dans la caravane. Ils se promènent aux Seychelles et dans toute la France de l'Est. Le relais est à Verdun, bien tranquillement installé. Il est vrai que pendant plus d'un an, nous sommes restés sans cellule de vigilance. Et à cette cellule, probablement, on aurait pu être plus affirmatif dans le danger que représentait cette secte. C'est quand même dommage que ces enfants aient été abandonnés. Alors là, comment procéder? L'affaire est entre les mains de la justice, de l'aide à l'enfance.
Personne ne connaît précisément le dossier auquel vous faites allusion, madame. Si, vous pourriez le connaître. prenez un micro et répondez là. Mais sinon, sur la base, simplement dire que cela montre à quel point il est important que les associations fassent remonter tous les signalements
sans compromission. Il y a un moment où ça bloque.
La difficulté là à laquelle on se heurte, c'est que la famille est un groupe effectivement merveilleux, c'est les anciens enfants de Dieu, qui ont été poursuivis largement en justice, qui se sont reconstitués. Les deux enfants en question étaient, au moment où ils étaient à Vernin, sous l'autorité parentale de la mère. Il a suffi de plaider, le juge ne connaissant pas au fond le phénomène sectaire, ni l'extension du groupe, etc., il a suffi de dire que l'autorité parentale basculait au père, qui lui était en Grande-Bretagne. Et là, les services sociaux se révèlent impuissants. Je pense que des journées comme vous, l'avez organisées, M. Buick et Mme David, sont très importantes parce que c'est un moyen, effectivement, de faire connaître. En particulier aux professionnels, l'importance du phénomène. Si l'ASE avait été informé par le service de vigilance, si le juge avait eu une information, etc. Et c'est ce que je disais ce matin, c'est on ne manque pas de moyens d'action, on manque de coordination et on manque d'une prévention spécifique vis-à-vis des professionnels.
Madame, le juge a eu une
Oui, je sais bien.
Vous le savez.
Je sais bien.
Une très une excellente information et en plus documentée par le docteur Richard, c'est pas le fait d'en parler, c'est tout le monde le connaît, qui ne pourrait pas être mieux argumenté que par le docteur Richard.
Je suis bien d'accord, sauf que le juge aurait probablement souhaité obtenir la même information par des voies hiérarchiques et non associatives.
Si je veux dire un mot sur le sujet, sur le contrôle, on connaît que Georges Fenech, je crois que les magistrats ne sont pas très à l'aise avec ces problèmes sectaires, notamment en ce qui concerne les gardes d'enfants. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, un vrai sujet. Alors, il y a beaucoup de progrès de fait parce que l'information passe, il y a eu des sensibilisations qui ont été faites auprès des magistrats, mais c'est vrai qu'on a des témoignages. Un individu comme nous, parlementaires, où des parents viennent nous voir après un conflit familial, un des parents étant dans la secte, etc., n'arrivant pas à récupérer les enfants, ou alors bon, le juge donne une décision favorable aux parents dans la secte. On a des cas dramatiques. Et là, on est très démunis, très démunis. Et je pense aussi que le magistrat, dans certaines conditions, est aussi lui-même démuni. Et c'est un vrai sujet qu'il faudra peut-être que l'on aborde de manière plus approfondie.
Il m'a semblé voir dans la salle la représentante du ministère de la Justice. Marie-Josée Poller.
Oui, Mme Blotte est là. Si vous voulez,
c'est elle qui pourrait le mieux les débucher là-bas.
Bonjour. Merci d'avoir répondu, monsieur le député.
Vous pouvez vous lever, madame. Voilà,
excusez-moi. Je n'ai pas pour l'habitude de me cacher. Simplement, je suis en train d'installer beaucoup de temps du gagnant d'appartenir à l'État au sein du ministère de la Justice. Et à ce titre, j'ai la charge de la mission SEC, souvent décriée par concernant le monde de la vie. Des personnes d'honneur commises par des grands éclairs. Et je travaille en collaboration avec mes collègues de la direction de la personne des ressources de la protection sociale de jeunesse. Alors, pourtant que le magistrat, depuis 25 ans, et après avoir exercé les fonctions, notamment des instructions et des choses à faire en légal, je ne prétends pas connaître tous les problèmes, mais je veux simplement vous dire, et c'est sur mon expérience que je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on a encore des magistrats de l'ordre judiciaire qui ne sont certainement pas suffisamment informés des problématiques liées aux dérives sectaires. Il n'en donna pas moins. Et au moins, on verra que la justice de ce qu'elle a pu faire depuis 15 ans, même si elle agit peut-être à petits pas, que nous avons des correspondances, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de chaque parquet général, d'ailleurs, il ne s'est pas semblé, j'ai mon homologue de la Cour d'appel de Lyon, qui coordonne au sein des cours d'appel des réunions de coordination avec l'ensemble des magistrats, magistrats du siège, magistrats du parquet. Alors, il est vrai que nous sommes un peu plus éloignés à la France et qu'il y a encore beaucoup à faire. Et d'ailleurs, de surcroît, il y a une action de formation au sein de l'École nationale de magistrature qui dure une semaine avec des spécialistes des mêmes secteurs, que ce soit des magistrats, des juges des enfants, des juges de l'affaires familiales, des avocats qui sont spécialisés dans le contentieux familial, des parlementaires, des managers policiers qui assistent avec moi à cette session, qui l'animent. Alors, il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai. Nous allons, sous l'autorité du directeur des affaires familiales et grâce à la demande du garde des Sceaux, recevoir les correspondances prochainement, au mois de juin, pour réactiver cette politique de lutte contre les dérives sectaires. Nous allons aussi, en liaison avec l'École nationale de la magistrature, essayer de faire en sorte que les sessions de formation déconcentrées au niveau des cours d'appel puissent rassembler un maximum de magistrats. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'affaires, ce sont des cas ponctuels. On ne travaille pas, les magistrats ne travaillent pas sur une affaire, sur un ensemble. C'est la situation d'une famille, de parents, dont l'un n'est plus adepte de violences sectaires et qui va, devant le juge des affaires familiales, faire valoir des arguments pour que l'autorité parentale soit retirée aux parents adeptes de la secte ou de demander à ce que la visite de l'hébergement soit supprimée. Et je rappellerai, ainsi que vous le savez, nous sommes entrés dans un pays démocratique régi par les principes qui sont garantis constitutionnels. Et quoi qu'en pensent certains mouvements, ces principes, ils sont respectés par les magistrats. Et il ne suffit pas de dire que tel ou tel parent est adepte d'un mouvement sectaire pour autant que le parent en question ne puisse plus avoir une autorité parentale sur cet enfant ou ne puisse plus avoir un droit physique de développement sur cet enfant. Il faut établir que dans l'intérêt supérieur de cet enfant, c'est que ce parent n'a plus les droits qui lui sont prescrits par les personnes. Merci.
Tout à l'heure, la question de l'enseignement, si on ose dire, du négationnisme, le plus possible, parce que ça tombe sous le coup de la loi, ou que ce soit, mais les sectes n'interviennent pas nécessairement d'une façon aussi grossière. C'est beaucoup plus raffiné, c'est pourquoi il faut prendre chaque sujet avec beaucoup de sérénité et essayer d'aller au fond des choses. Après notre dernière commission d'enquête de 1999, moi j'avais été très surpris. Alors, nous avions pris des dispositions de secret et d'isolement quasiment de ceux qui travaillaient sur la commission d'enquête, tout à fait drastique. Martin David se rappelle certainement, déconnexion des ordinateurs, secret absolu, etc. Et nous n'avons pas, il n'y a pas eu de fuite, à la différence de la commission d'enquête précédente, même si on a une idée assez précise de qui était à l'origine des fuites. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les sectes n'ont pas critiqué notre rapport de la commission d'enquête. Comme si elles laissaient passer l'orage, en se disant, là, on nous a lu, évidemment, d'une façon très méticuleuse, puisque c'était les sectes et l'argent. Vous imaginez bien que c'est un sujet tout à fait tabou. On essaie, parce qu'il y a toujours deux objectifs, le pouvoir, l'emprise et l'argent. L'un nourrissant l'autre, les deux à la fois, c'est variable selon les sectes. Une seule secte a attaqué ensuite et a mis en cause le président de la commission d'enquête, dont j'étais rapporteur, Jacques Milliard, qui s'est retrouvé traîné devant un tribunal par l'anthroposophie. Un magistrat d'ailleurs a même demandé à notre collègue parlementaire de violer le secret de la commission d'enquête et de révéler des choses qu'il ne pouvait pas révéler puisqu'il était soumis en vertu de l'ordonnance de novembre 58 au secret. Et donc le magistrat lui demandait de commettre un délit pour informer le tribunal. Donc en première instance il a été bousculé, notre collègue, en deuxième instance, il a été, justice lui a été rendue, si j'ose dire, c'est pas la classe, vous l'étiez pour moi. Moi, ça m'a intrigué, pourquoi l'anthroposophie? Donc, j'ai pris sous mon bonnet d'aller voir un spécialiste de ce sujet en Allemagne, que d'ailleurs nous avions auditionné ensuite, à ce qui était la MILS à l'époque, la maladie virus, le docteur Badovi de l'université de Karlsruhe, qui est un spécialiste de cette affaire-là. Et je vous assure que ce que j'ai appris, je savais peu de choses sur l'anthroposophie. Sur les écoles Steiner, on sait très peu de choses sur les écoles Steiner, puisque l'anthroposophie, c'est Steiner. En réalité, c'est autrefois les écoles Waldorf en Allemagne, qui ont des réseaux de pouvoir très intéressants. Par exemple, le recteur de l'université d'anthroposophie, puisqu'ils ont une université en Allemagne, était le frère du premier ministre de l'Intérieur de Gerhard Schröder. Et après, on s'étonne que dans la loi allemande aient été ajoutées des dispositions tout à fait bizarres pour la pharmacopée anthroposophique. Comme vous voyez, il n'y a pas de petit profit, évidemment. Et alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, je reviens au négationnisme, c'est qu'en y regardant le plus près, c'est une structure très bien construite d'anthroposophie, avec son siège en Suisse, le Gotteanum. Et il faut s'intéresser à la philosophie de Steiner. C'est qu'il explique qu'il y a différents âges dans l'humanité. Et vous allez voir comment ça rapproche le négationnisme. C'est que le premier âge, c'est-à-dire le plus primitif, le plus déshumanisé, il est exprimé par qui? Par les Noirs, le hasard. Et l'âge, je vous passe les étapes, l'âge le plus élaboré de l'humanité, ben ce sont les Blancs, bien sûr. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble aux Aryens. Et ça explique peut-être pourquoi Steiner et les siens n'ont jamais eu d'ennui avec Hitler, qui pourtant n'était pas un sentimental. Et vous voyez comment ça se fait que ces théories ont trouvé, ma foi, le droit de citer auprès des nazis. Alors, vous ne le trouverez pas dans les écoles Steiner ici, je pense, le contrôle, évidemment, de l'année pour collège, de propagande nazie. C'est beaucoup plus élaboré que cela. Mais quand vous lisez Steiner, ma foi, les méthodes rustiques d'éducation jusqu'à 15 ans ne sont pas bannies. C'est une méthode que j'utilise. Mais il est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas réussi, du point de vue des actes concrets, à les prendre la main dans le sac. Il faut dire, sauf s'il y a des informations nouvelles que je ne connais pas. D'où l'intérêt de s'intéresser à la philosophie fondatrice des écoles Waldorf et comment le Gotteanum, y compris, réunit tout cela en Suisse, ou alors là, c'est un vrai paradis pour le siècle, comme vous le savez, puisque tout est possible, pas seulement dans les coffres forts, encore que le siècle des coffres forts ne font pas forcément mauvais ménage.
Alors, juste un dernier mot, monsieur Bocola, sur l'intervention, monsieur le député, puis ensuite on passera à la troisième partie, je donnerai la parole à Jean-Claude Maes.
Les précisions que donne Jean-Pierre Brard sont tout à fait exactes. Et lorsque le problème des écoles Steiner s'est posé, nous sommes à plusieurs replongés dans les écrits. Je ne dirais pas qu'on a tout lu. Hein. 300 et quelques ouvrages de Steiner, c'est ahurissant. Mais nous avions relevé un certain nombre de préceptes qui auraient constitué des délits. Et Jean-Pierre Brard en a indiqué un qui est tout à fait caractéristique. Et donc, les inspecteurs qui, le même jour, à la même heure, allaient dans toutes les écoles Steiner, avaient cette listing des dérapages possibles. En leur disant, faites particulièrement attention, lisez dans les cahiers, essayez de trouver. Nous n'avons rien trouvé de tel, et la réponse obtenue dans toutes les écoles, c'est oui, Rudolf Steiner préconisait tel aspect, mais nous faisons le tri, nous savons que c'est illégal, et nous l'avons retiré de notre enseignement. Or, dans un état de droit, on ne peut pas condamner en absence de preuves. Tant qu'il ne sera pas prouvé que toute la philosophie de Rudolf Steiner est mise en œuvre, les écoles de Steiner pourront fonctionner librement.